Non seulement ils ont le courage de dire qu'ils vont continuer, malgré l'avertissement, mais en plus, ils en profitent même pour évangéliser les chefs religieux. Donc c'est très courageux. La bonne attitude face à la persécution, c'est la confiance en Dieu, dans la prière, comme on peut le voir dans le même chapitre 4 des Actes, juste avant où on était tout à l'heure. Chapitre 4, verset 29, à partir du verset 29 du chapitre 4 des Actes, on voit qu'ils ne sont pas si fiers que ça, les apôtres, ils sont quand même tremblants, et la bonne attitude qu'ils ont, le bon réflexe, c'est de se tourner vers Dieu. Et verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Un petit témoignage de l'Église persécutée. J'en lirai quelques-uns au cours de cette exhortation. Nous avons fait l'expérience de cette protection divine pendant les événements du printemps arabe, et particulièrement lors des combats qui se déroulaient devant notre porte. Chaque matin, je faisais ma prière et je me disais que c'était peut-être la dernière. La mort frappait autour de nous et pouvait arriver à tout moment. Un jour, je devais franchir des zones de combat pour porter secours à des chrétiens isolés qui manquaient d'eau et de nourriture. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je prends ma voiture. Je vais les chercher. » Les tirs fusaient des deux côtés de ma voiture et j'entendais des missiles nous survoler, mais une main invisible nous gardait. Chaque jour était un miracle. Rien au monde ne pouvait arrêter la mission que Dieu nous avait confiée. On va passer à la deuxième diapo. Dieu permet cette épreuve dans la vie des croyants. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas juste une exception. C'est quelque chose de normal que Dieu a prévu dans notre vie, dans la vie des croyants, pour nous affermir, pour nous purifier, pour nous préparer à sa présence, à être éternellement avec lui dans sa présence. On peut voir dans Jean, par exemple, Jean chapitre 15, qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps dans les groupes de maison. Si vous vous souvenez, dans Jean, Jésus nous a avertis, nous a prévenus qu'on serait persécutés et que c'était normal. Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. En gros, vous n'êtes pas les premiers. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et j'aime bien la suite. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et c'est encourageant dans l'évangélisation de savoir que nous aussi, notre parole aussi, les gens peuvent la garder. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. On a aussi un exemple dans Hébreux, si vous voulez tourner dans Hébreux chapitre 12. Une exhortation en quelques versets à partir du verset 5. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils ou la fille qu'un père ne châtie pas? Un autre témoignage de l'Église persécutée, d'un chrétien qui a été confronté à quatre jeunes femmes qui lui demandaient à être baptisées. Un jour, j'ai eu la visite de 4 jeunes femmes. Elles m'ont annoncé qu'elles souhaitaient devenir chrétiennes, après avoir regardé pendant plusieurs années des émissions chrétiennes à la télévision. Comme quoi, la télévision aussi peut avoir un impact important. Et on peut bénir le Seigneur pour ça. Elles s'étaient rendues dans une église, mais on leur avait dit de partir. Surpris par leur démarche, je leur ai expliqué les conséquences possibles de leur engagement. Mais elles ne changèrent pas d'avis et demandèrent le baptême. Dans un premier temps, je leur ai apporté un enseignement biblique. Voyant la profondeur de leur foi, j'ai finalement accédé à leur demande et je les ai baptisées. Je ne les ai plus jamais revues. Elles ont soudainement disparu. J'ai appris plus tard que l'une d'elles avait été assassinée par sa propre famille. Aujourd'hui, il nous faut vivre dans un monde dominé par les extrémistes religieux. Paul, dans les Actes, un peu plus loin, au chapitre 14, nous dit que c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit ça après avoir évangélisé quelques villes, et il dit ça pour encourager ses disciples à persévérer. Nous savons que Dieu a promis d'être, il ne nous a pas promis de ne pas avoir d'épreuves, il ne nous a pas promis une vie où tout se passerait bien, une petite vie en rose, mais il nous a promis par contre d'être avec nous dans l'épreuve, dans la difficulté. On peut lire à ce sujet Ésaïe 43, versets 1 à 4, « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Chacun d'entre nous peut prononcer ces paroles. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Nous avons cette promesse que Dieu sera avec nous dans l'épreuve, dans la difficulté. Un autre petit témoignage d'un chrétien de l'église persécutée. Il y a 4 ans de ça, un de mes amis engagé dans l'église a été assassiné de 18 coups de couteau. Cette année, un des anciens de notre église a succombé sous les tortures de la police en raison de sa foi en Christ, laissant une veuve et 4 orphelins. Quand je lis ces choses, je me dis, où est Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Et j'ai la conviction dans mon cœur que Dieu a été avec ces personnes jusqu'à la fin, jusqu'au moment où elles ont dû subir ces souffrances et peut-être laisser leur vie. Dieu est fidèle à ses promesses et on doit lui faire confiance. C'est un peu tout ce qu'on dit ce matin, un peu décalé par rapport à ce qu'on vit en France. Mais peut-être qu'un jour la persécution viendra, on ne sait pas. Et d'une manière ou d'une autre, quand on commence à parler de Jésus, on a toujours une forme de persécution, même si elle est moins forte. On a des moqueries, on a des gens qui se détournent un peu de nous, qui nous jugent sans trop nous connaître. Voilà, soyons courageux et annonçons la parole de Dieu malgré tout ça. Dans 2 Corinthiens 4, on peut lire « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés. Inquiets, mais non pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonné. Abattu, mais pas anéanti. » C'est dans les versets 8 à 12. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La troisième et dernière partie. Si tu veux bien, Lauriane, merci. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire devant la persécution ? On a vu tout à l'heure ce témoignage de frère André, qui est le fondateur de Portes Ouvertes, qui dit cette belle phrase que le meilleur endroit, l'endroit où le plus sûr au monde, c'est là où on est dans la volonté de Dieu. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mais j'étais surpris de voir ce que les premiers apôtres la décision que les premiers apôtres ont pu prendre devant la persécution. On a vu tout à l'heure qu'ils ont dit, même si vous nous interdisez de prêcher l'évangile, nous on va continuer à parler de Jésus. Mais quand la persécution s'est faite de plus en plus forte après le meurtre d'Étienne, La persécution a été très forte, beaucoup de chrétiens sont partis, alors je ne leur jette pas la pierre. Le Seigneur avait aussi, a permis ça aussi pour que l'évangile se répande dans le monde entier, donc ça faisait aussi partie de son plan. Mais on peut voir dans Actes 8, verset 1, l'attitude des apôtres eux-mêmes. Ça m'a frappé quand j'ai lu ce passage. J'avais jamais trop fait attention à ça. Acte 8, verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. C'est juste suite au meurtre d'Étienne. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de Samarie. Donc gloire à Dieu pour ceux qui sont partis parce qu'ils ont évangélisé. Grâce à eux, le monde a pu être touché. Mais gloire à Dieu aussi pour les apôtres qui ont eu le courage de rester à Jérusalem malgré la persécution et à continuer d'être des piliers là où ils étaient. Et on sait que la suite dans Actes, c'est Jacques qui va mourir. Hérode va faire mourir Jacques. Ensuite, il va emprisonner Pierre. Et Dieu n'a pas donné le même sort à Jacques et à Pierre, puisque Pierre va être libéré de sa prison. Mais voilà, la persécution sera réelle, et malgré ça, les apôtres restent sur place. Moi-même, je me demande, qu'est-ce que je ferais en cas de persécution? Est-ce que j'aurais le courage de rester? En tout cas, j'espère que j'aurai le courage de faire ce que Dieu me demande de faire. Et je crois que dans ce moment-là, l'Esprit de Dieu doit agir avec puissance pour nous fortifier. Mais à nous d'être dès maintenant le plus proche possible du Seigneur pour que quand l'épreuve viendra, on soit prêt. Dans la plaine de Moab, Moïse bénit son peuple, le peuple d'Israël. On va lire ça dans Deutéronome. Et il lui rappelle une simple promesse de Dieu. Deutéronome 33, verset 27. Moïse dit à son peuple, « Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. » On pourrait dire aussi, « Il est depuis toujours un soutien ici-bas. » Voilà. Dieu est un abri au milieu de l'épreuve, au milieu de la difficulté. Dieu reste un abri. Un autre passage, non, je le dirai plus tard. Voilà, juste en conclusion, voilà, depuis l'Exode, depuis ce temps où Moïse a conduit son peuple et où il a donné cette promesse, je la relis parce qu'elle est assez courte mais puissante. Le Dieu d'éternité est un refuge, sous ses bras l'Éternel est un abri. Depuis ce temps-là, il y a plus de 3000 ans maintenant, eh bien, Dieu est toujours présent, est toujours fidèle envers son peuple. Il a toujours été présent avec ceux qui souffrent pour les soutenir. Il a toujours été un refuge pour ceux qui se confient en lui. Et on n'est jamais confus de placer notre confiance en Dieu.